La première partie de ma conférence sera un peu mon parcours professionnel que quelques amis qui se trouvent dans la salle connaissent. C'est par hasard, en 1971, jeune étudiant à Jérusalem, que j'ai trouvé un emploi à la radio israélienne en français. Ce fut le début de ma carrière, avec à la clé une formation sur le tas. D'abord comme rédacteur de nouvelles, je crois qu'il faut écrire des brefs pendant au moins un an, pour maîtriser un peu les règles du métier de journaliste. Pour les confrères dans la salle, la règle des W, when, where, who, what, why, en cinq lignes. À l'époque, c'était à la radio israélienne sur le modèle de la BBC. Ces émissions en français devaient être neutres, puisque destinées aux intellectuels arabes de la région et accessoirement aux francophones israéliens. Les choses ont commencé à changer à partir de 1977 avec l'arrivée au pouvoir du Likoud de Menachem Begin et de son glossaire. La Cisjordanie était devenue la Judée-Samarie. Il ne fallait plus parler de colonie, mais utiliser le terme de localité, peut-être même implantation, et encore ça, il n'aimait pas. Cette sémantique ne parvenait pas à travestir avec de nouveaux habits la réalité de l'occupation des territoires palestiniens. Ce n'était pas encore obligatoire, et pour ma part, je continuais à utiliser les anciens termes. Dans ces conditions, mes commentaires et mes reportages n'ont pas eu l'heure de plaire à de nombreux Israéliens d'origine française. Notamment le professeur André Neher, personnalité importante du judaïsme français, arrivé en Israël en 1968. Il trouvait fréquemment mes bulletins de nouvelles inadmissibles. 7 mois après la guerre de 6 jours, président du colloque d'intellectuels de langue française, d'intellectuels juifs de langue française, fin janvier 68, il avait proclamé l'interdiction de toute critique envers Israël et lancé un avertissement. Ce colloque s'était déroulé à Paris. Les théoriciens d'une gauche pure, a-t-il dit, et beaucoup d'intellectuels juifs de la diaspora revendiquent le droit de critique à l'égard d'Israël, sans se rendre compte du mécanisme mortellement dangereux dans lequel ils acceptent d'entrer. Être contre Israël, selon Neher, par quelque nuance que ce soit, c'est sur ce point précis être vraiment et fatalement contre Israël. C'est apporter à la mise en accusation d'Israël une contribution dont les répercussions sur l'ensemble sont dangereusement imprévisibles. Ces critiques sont donc nocives en logique pure. Il faut dire que l'Office de radio et télévision israélien, l'ORTI, n'a jamais donné suite aux protestations et critiques. Notamment lorsque nous diffusions des émissions avec, par exemple, le professeur Yehoshua Leibovitch, très opposé à la politique gouvernementale. En 1981, j'ai commencé à travailler en parallèle pour Antenne 2. Philippe Rochaud, envoyé spécial à Beyrouth, était venu en Israël couvrir la campagne électorale. Il entendait mes émissions sur Kol Israël et m'a contacté. Très vite, la chaîne m'a proposé d'être son pigiste à Jérusalem. Là aussi, en télé, c'était une formation sur le tas. J'ai appris à diriger un tournage avec des caméramens israéliens, puis le montage dans un studio de Jérusalem. Le résultat était envoyé à Paris, recevant ensuite les critiques des chefs du service de politique étrangère. À l'époque, c'était Paul Nahon et Bernard Benyamin. Didier Applebaum, mon camarade de la radio israélienne, a vécu cette aventure avec moi. Après quelques années, il est allé travailler à la rédaction à Paris. Il y a fait une belle carrière pour devenir le médiateur de la rédaction. En 1982, ce fut la première guerre d'Israël au Liban. Fin juin, la radio israélienne m'a envoyé à Beyrouth réaliser des reportages avec les chrétiens maronites, fidèles auditeurs des émissions en français de la radio israélienne. Arrivé dans la capitale libanaise, j'ai obtenu une interview avec Pierre Djemayel, le fondateur des Phalanges et surtout père de Bachir, Ariel Sharon et Menachem Begin, voulait placer à la présidence de l'État libanais. Pierre Djemayel dit à mon micro que les forces libanaises de son fils ne se battraient pas aux côtés de Tsahal et que les maronites libanais seraient les derniers à faire la paix avec Israël. Il ajoute « Faites d'abord la paix avec vos Palestiniens » et là je me dis « Israël n'a rien à faire à Beyrouth ». Je cours au point de diffusion de la radio israélienne installée sur une colline surplombant la capitale libanaise. Mais mon interview n'intéressait pas les émissions en hébreu. Il ne sera diffusé qu'en français. Plus tard, lorsque Bachir refusera de conclure un accord avec Menachem Begin, on me dira « Tu avais raison, on aurait dû le diffuser ». Décembre 87, c'est le début de la première intifada. J'ai d'abord quelques difficultés à persuader les chefs de la politique étrangère en Antenne 2. Ils ne croient pas qu'il s'agit d'un soulèvement en bonne et due forme. Après, au niveau de la rédaction, la question se pose. Enderlin est israélien. Peut-il couvrir le côté palestinien ? Finalement, on m'a laissé la bride sur le cou. Et avec un caméraman israélien, j'ai réalisé de nombreux reportages, tant du côté palestinien qu'israélien. Avec un petit problème, des confrères français envoyés spéciaux en poste à Jérusalem avaient trouvé bizarre que ce soit le correspondant d'une grande, que je sois le correspondant d'une grande chaîne publique, et ils l'ont fait savoir aux Palestiniens. Un jour, un dirigeant palestinien, dont je savais qu'il était membre du comité secret de l'Intifada, me dit « Monsieur Enderlin, il paraît que vous êtes un agent du Mossad ». Je réponds « Je suis juif, je suis israélien, et vous m'entendez à la radio israélienne, vous commencez mon travail, et vous savez que le véritable agent israélien se dit votre ami, et vous savez à qui je pense ?» Il réfléchit et me répond « Vous avez raison. » À qui pensait-il ? Je n'en ai aucune idée. Début 88, j'ai quitté définitivement la radio israélienne pour travailler exclusivement pour Antenne 2. Les reportages côté israélien ne suscitaient que très peu de réactions négatives. Il n'en était pas de même lorsque je diffusais un sujet sur les Palestiniens face à la répression israélienne. Les réactions étaient parfois très vives lorsque je montrais les saisies de terre, les affrontements entre les militaires et les lanceurs de pierres à Gaza ou en Cisjordanie, les blessés palestiniens, les enseignants palestiniens faisant classe dans des cavernes parce que les autorités d'occupation avaient fermé les écoles. Utiliser les termes « occupation »,« colonie » ou « territoire occupé » selon le langage de la communauté internationale me classait systématiquement parmi les anti-israéliens, voire les anti-sionistes, dans une certaine presse communautaire. C'est ainsi qu'Emeric Deutsch, ancien résistant, grand psychanalyste, fondateur de la Sauffresse et juif observant, m'a attribué le qualificatif de « juif qui a la haine de soi ». Un collègue français envoyé spécial d'un grand quotidien parisien fut, lui, qualifié de militant du Hamas. Vers cette époque, fin des années 80, j'ai décidé que les sujets reportages étaient trop réducteurs, et j'ai écrit la biographie d'Yitzhak Shamir. En octobre 91, après la première guerre du Golfe, sous la pression du président George Bush et de James Baker, le secrétaire d'État, Shamir et son gouvernement ont été forcés de participer à la conférence de Madrid. Un événement majeur, symbolique, pour la première fois, les Palestiniens aux côtés de Jordaniens se trouvaient à la table de négociation face à la délégation israélienne. Il y avait aussi les Syriens. Et là, j'ai eu la surprise de voir Farouk Achara, le ministre syrien des Affaires étrangères, brandir un article portant la photo de Shamir, « wanted » par les autorités britanniques. C'était un article de Jeune Afrique sur ma biographie de Shamir qui venait de paraître. Et Achara de lancer à la délégation israélienne « Votre Premier ministre était un terroriste ». Une confrère du quotidien israélien Idiot Achronot vient me voir et me demande « On attaque le Premier ministre avec ton livre ». Je lui ai répondu que j'étais très déçu par Farouk Achara. D'abord, il n'a pas cité mon livre, ce qui certainement aurait amélioré les ventes. Et puis, il se trompait. Jamais les Britanniques n'ont qualifié le groupe Stern de terroriste, mais uniquement de gangster. 92, Israël va aux urnes, Yitzhak Rabin conduit la campagne électorale travailliste, et très vite, j'ai la quasi-certitude qu'il va gagner. Je le dis à la rédaction, à Paris, et je leur propose de faire des sujets sur ce qui s'annonce un grand changement dans la politique israélienne. On ne me croit pas. Vous savez, en général, votre rédacteur en chef sait tout mieux que vous. Il est informé, il a regardé les chaînes Tout Info, lu le Parisien, peut-être jeté un œil sur la BBC World, écouté les radios, et il sait ce qu'il veut de vous. Et puis, il y avait ma belle-mère, Annie Kriegel, elle était venue conforter ses théories. Shamir allait gagner, a-t-elle écrit dans le Figaro. Mais Annie Kriegel était une très bonne belle-mère, et elle écrira après la victoire de Rabin que son gendre avait raison. Là, j'ai eu une interview exclusive avec Rabin et son épouse Léa, la seule jamais réalisée chez eux. J'ai offert les images à la famille lorsque sera créé le centre au nom du Premier ministre assassiné. Rabin, dans cette interview, m'avait confirmé sa volonté d'avancer vers les négociations sur l'autonomie palestinienne. Ces pourparlers se sont déroulés dans une atmosphère d'extrême violence. Les partisans de la colonisation, le Likoud et les sionistes religieux n'avaient pas digéré la poignée de main entre Rabin et Arafat à Washington. Ils voyaient se réaliser le scénario du pire, c'est-à-dire des concessions territoriales à l'OLP en Cisjordanie, où Rabin avait gelé la construction dans certaines colonies. Je vais remarquer sur les portes de maisons juives dans la colonie du centre de Hébron des autocollants portant une citation du rabbin Cook, le gourou du sionisme messianique. Il était écrit « La main qui signera le renoncement à un pouce de la terre d'Israël sera coupée ». Dans les manifestations de la droite et de l'extrême droite, des colons me disaient, parfois en français, « Cet accord ne sera pas appliqué, nous préparons les armes ». J'étais persuadé, et cela dès le mois de juillet 1995, Rabin ou Peres seront assassinés. Je l'ai répété à des responsables de rédaction. Avec mon équipe, nous avons commencé à filmer toutes les manifestations de droite comme de gauche, m'obligeant à rester jusqu'à la dispersion des participants. C'est ainsi que j'ai été, pour France 2, le seul à filmer la prière pour la mort de Rabin à Jérusalem par quelques religieux fanatiques. À l'époque, j'ai proposé les images aux chaînes israéliennes qui m'ont répondu « ce n'est pas intéressant ». Plus tard, on viendra me supplier les images. Le 4 novembre 1995, nous étions la dernière équipe de télévision sur place, sur la place des rois d'Israël à Tel Aviv, à l'issue de la grande manifestation pour la paix. Et là, nous avons été les seuls à filmer l'arrestation d'Yigal Amir, l'assassin de Rabin. Pour la petite histoire, j'appelle la rédaction. Il était à Paris, 21h30, et j'annonce au rédacteur en chef qui était là, on a tiré sur Rabin, il est blessé. On me répond, ah bon, tiens-nous au courant. Bon, comment faire comprendre à la rédaction que c'est gravissime, et les confrères journalistes dans la salle l'ont probablement fait à ma place, comme moi. J'appelle le bureau de l'AFP à Jérusalem et je dicte la nouvelle, un urgent, aux confrères de service. Il prend note et quand même prend la précaution d'appeler le chef de bureau, Luc de Barrocher, qui lui répond « Envoie tout de suite ». Quelques minutes plus tard, France 2 m'appelle « Tu as vu ? On a tiré sur Rabin ». Le grand patron de l'AFP m'enverra une lettre de remerciement. Son agence a été la première au monde à annoncer l'attentat contre Rabin. Mais ce soir-là, j'ai ressenti peut-être la plus grande frustration de ma carrière. La première chaîne de télévision israélienne, il y avait encore le producteur sur place, à la place, là-bas, il a genoux, il me supplie de lui donner des images. Il me dit, notre premier ministre est blessé, il y a un attentat, il est peut-être mort, et tu es le seul à voir l'image, nous sommes la chaîne israélienne, donne-nous des images. Je réfléchis, finalement j'accepte. Mais alors, deux conditions, tu les incrustes France 2, et tu ne donnes ce tournage à personne. Elles ne seront pas incrustées, et il les donnera à la CNN. Je rentre à Jérusalem, je serai le dernier à diffuser mon scoop. Je n'ai eu le faisceau satellite que très tard. Le responsable des commandes satellites à France de Paris ne parlait pas l'anglais. Et il envoyait des fax en français à la station satellite israélienne où les techniciens ne parlaient pas un mot de français. Autant pour mon scoop. À l'époque, je me posais la question de savoir ce qui s'était passé en coulisses. La presse et des rumeurs faisaient état de rencontres secrètes. Cela m'a donné l'idée de faire un livre sur toutes les négociations importantes entre sionistes et arabes, arabes et israéliens. Cela signifie aller aux archives et souvent contourner la censure. Une vague fuite dans la presse israélienne sur des négociations secrètes entre Israël et l'OLP entre 84 et 85, une vague fuite a attiré mon attention. J'ai remonté le fil, d'abord en interviewant un ancien numéro 2 du Shin Bet, le service de secret intérieur, qui m'a confirmé l'existence de ces pourparlers. Invité un jour à titre privé chez Shimon Peres, il était Premier ministre, un jour de 96, je lui demande de donner l'autorisation à un général qui était dans les négociations de me donner accès au procès-verbaux. Il me l'a donné. Par la suite, j'ai eu les témoignages de tous les autres participants, Saïd Kamal au Caire, Steve Cohen, l'américano-canadien qui était le médiateur, et surtout Avraham Shalom, le patron du Shin Bet à l'époque, pour qu'il était fondamental d'arriver à un accord avec l'OLP. C'était des négociations précurseurs d'Oslo. J'en ai retrouvé mention dans les contacts entre l'équipe de Rabin et Mahmoud Abbas pendant la campagne électorale de 1992. Pour ce livre, Paix ou guerre, quelqu'un m'a communiqué des rapports et la correspondance secrète entre l'OLP et le gouvernement Rabin. En passant à 1999, Ehud Barak est Premier ministre et il a décidé de négocier l'accord définitif avec Arafat. Je connais personnellement Maître Gilad Sher, son chef de cabinet. Nous avions travaillé tous les deux à la radio israélienne. Étudiant en droit à l'époque, il couvrait les affaires judiciaires. J'ai également de bons contacts avec d'autres responsables israéliens et des participants côté palestinien. Je connais certains négociateurs depuis l'époque de la première intifada et ceux que j'ai rencontrés après leur arrivée en Palestine, venus de Tunis. Je propose à ces Israéliens et à ces Palestiniens de me donner des interviews en temps réel, avant et après chaque rencontre importante, étant entendu que je ne diffuserai ou ne publierai rien avant l'issue des négociations. Aussi, je ne révélerai pas à l'un ce que l'autre m'a dit. À l'origine, je faisais ce travail pour le livre que je préparais, mais Michel Cotta, la directrice de France 2 à l'époque, a appris que ces interviews étaient filmées et elle a décidé d'en faire un documentaire TV. Il y avait une cinquantaine d'enregistrements. La plupart, je les ai enregistrés seuls, avec une petite caméra, ce qui explique parfois leur mauvaise qualité. Je suis un très mauvais caméraman. Cela a donné Le rêve brisé, le film et le livre qui ont été des succès. Mais revenons à l'été 2000. Après l'échec de Camp David en juillet, surtout les accusations lancées à l'encontre de Yasser Arafat, développées par la communication israélienne, mais aussi américaine, il ne serait pas un partenaire pour la paix, avait dit Barak. L'atmosphère était de plus en plus lourde en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le jeudi 28 septembre 2000, Ariel Sharon, sous protection policière, visite l'esplanade d'Al-Aqsa, qui est aussi le mont du Temple. Cela se passe sans véritable incident. Marwan Barghouti, le chef du Fatah, qui avait organisé une petite manifestation sur ce lieu saint, m'avait dit sa grande déception. Les Palestiniens n'étaient pas venus en nombre manifester contre Sharon. Le lendemain, vendredi, jour de la grande prière musulmane, à la suite de jets de pierre, les policiers israéliens ouvrent le feu à balles réelles sur l'esplanade. Il y a des morts et des blessés parmi les fidèles. Lorsque je suis arrivé sur place une heure plus tard, des officiers couraient encore après des policiers en criant « Cessez le feu ». Les territoires palestiniens se sont embrasés. Pour moi, ce n'est pas la visite de Sharon sur Al-Aqsa qui a déclenché la seconde intifada, mais l'ouvert du feu par la police israélienne sur les fidèles musulmans le lendemain. Le lendemain, vendredi. Les autorités israéliennes ont tout fait pour empêcher une véritable enquête sur ce dérapage de la police israélienne. Le lendemain samedi, j'étais à Ramallah avec mon équipe israélienne. Tous les caméramans de France 2 étaient à pied d'œuvre, à Hébron, à Bethléem et à Gaza. Talal Abou Rahmé, le caméraman travaillant pour France 2 et employé de France 2. Partout, des jeunes Palestiniens affrontaient l'armée israélienne. Et ce soir, dans le journal télévisé, j'ai diffusé un reportage comprenant la séquence tournée à Gaza par Talal, montrant un jeune Palestinien, Mohamed Al-Doura, et son père, Jamal, sous le feu venu de la position israélienne de Netzarim, dans le centre de la bande de Gaza. Durant la nuit, je réalise que ces images, reprises par les agences de presse et d'autres chaînes, suscitait de très importantes réactions. Un ami journaliste israélien m'a appelé de Los Angeles pour me dire que la mort de Mohamed Al-Doura faisait toute la une du Los Angeles Times. Je me méfie. Le lendemain, j'ordonne à Talal d'aller filmer tout ce qui était possible à l'hôpital Shifa de Gaza où se trouvait le corps de l'enfant et le père blessé. Il l'a interviewé, ainsi que les chirurgiens qui l'ont opéré, filmé les radios prises avant et après l'opération. Ces images ont été diffusées le jour même. J'en ai diffusé deux reportages. Vu l'actualité très importante, on est passé à autre chose, au rythme de 2 à 3 reportages par jour pendant des semaines. Cette affaire a refait surface en novembre avec l'enquête interne du général Yom Tov Samia, commandant la région sud. Il laissait entendre que les tirs auraient pu provenir du côté palestinien. Une démonstration bourrée d'erreurs réalisée avec l'aide de tenants de la théorie du complot. nous avons diffusé deux sujets dans les 20 heures sur les déclarations du général et en parallèle, nous avons fait savoir aux autorités militaires que nous ne participerons qu'à une enquête en bonne et due forme selon les standards internationaux. J'attendais d'ailleurs que quelqu'un, l'armée, le gouvernement israélien, dépose plainte contre moi et Talal Abu Rahmeh. À ce moment-là, devant le tribunal, il aurait fallu que l'armée divulgue ce qu'elle ne voulait pas montrer, les images filmées par un drone sur place et surtout les témoignages de la trentaine de soldats qui étaient dans la position. J'avoue qu'à l'époque, je n'ai pas réalisé l'incroyable facilité avec laquelle la théorie du complot pouvait être utilisée pour transformer la réalité. Pour moi, il était totalement incompréhensible, illogique, que des personnalités, des chercheurs, des écrivains, des organes de presse français, américains, israéliens puissent sérieusement imaginer que tout cela n'était qu'une mise en scène. Aurait donc joué la comédie devant une position militaire israélienne où se trouvaient des dizaines de soldats. Jouer la comédie, plusieurs centaines de manifestants palestiniens, des caméramens et des photographes d'agences internationales, les ambulanciers, les médecins de l'hôpital Shifa, l'ambassadeur jordanien qui a transporté le père blessé à Amman le lendemain, les chirurgiens jordaniens qui l'ont opéré à l'hôpital militaire d'Amman, le roi Abdallah, le roi de Jordanie, qui a rendu visite au père à l'hôpital. Tous auraient participé à un monstrueux complot destiné à salir l'image d'Israël et de son armée. Mohamed al-Doura aurait été donc sciemment assassiné par les Palestiniens, selon des ministres et un général israélien encore en 2013, Al-Doura serait en fait encore vivant et vendrait des tomates sur le marché de Gaza. Et le Shin Bet, le Mossad, n'aurait rien trouvé, n'aurait pas réussi à dévoiler le poteau rose, à découvrir le moindre témoin de cette gigantesque mise en scène. Si c'est le cas, c'est un échec des services de renseignement d'une ampleur inégalée. En tout cas, cette campagne, la guerre israélienne contre l'image de la mort de Mohamed al-Doura, est un formidable succès de la communication israélienne. Le public israélien y croit toujours aujourd'hui dur comme fer, de même qu'une partie importante des communautés juives à l'étranger. Mais très vite, j'ai découvert qu'il y a des coïncidences qui ne sont pas le fruit du hasard. Le 10 mai 2002, sortait en librairie mon livre « Le rêve brisé », où je battais en brèche la propagande israélienne et en France celle du CRIF, pour qui Yasser Arafat était l'unique responsable de l'échec du sommet de Camp David en juillet 2000. Le 26 juin de la même année, à Paris, Alain Finkielkraut, Jacques Tarnero et Shmuel Trigano lançaient une offensive contre ce qu'ils appelaient la palestinophilie des médias en France et prenaient pour exemple l'enquête du général Samia et un documentaire à charge réalisé par une journaliste allemande avec l'aide généreuse de l'armée. Aide de l'armée qui nous a toujours été refusée. Il est évident qu'après avoir diffusé le reportage sur la mort de Mohamed al-Doura, j'ai demandé à Tzahal la possibilité d'affilmer dans la position israélienne, d'aller interviewer les soldats, de montrer les angles de tir, et de toute manière, l'armée, 15 jours après, a détruit toute la position, tout le mur devant lequel se trouvaient le gosse et son père. Donc, Finkielkraut, Tarnero et Trigano disent c'est faux. Les tirs venaient des Palestiniens. Ils mettent en doute ma crédibilité. Si Anderlin diffusait un mensonge, alors tout son travail est sujet à caution. Je répète, aucune de ces trois personnages, je les connaissais personnellement, n'a pris le soin de m'appeler ou de me contacter. Mais voyons comment cela a fonctionné. En France, Pierre-André Taguieff est le grand expert en croyances conspirationnistes, les croyances anti-juives dans le monde arabe. Eh oui, 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 ça existe. Je l'ai rencontré chez les Palestiniens, en Jordanie, en Égypte. Et comme l'a écrit Tom Friedman du New York Times, au Proche-Orient, trop souvent, si vous ne pouvez pas expliquer une chose par la théorie du complot, n'essayez pas de l'expliquer, les gens ne vous croiront pas. Oui, les Palestiniens sont persuadés qu'il se passe toujours quelque chose du côté israélien avec les Juifs derrière. Beaucoup d'Israéliens et dans une large partie de la communauté juive pensent que les Palestiniens complotent sans arrêt. Mais Taguieff a défini quatre principes du complotisme arabe. 1. Rien n'arrive par accident. Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachées. Rien n'est tel qu'il paraît être. Tout est lié, mais de façon occulte. Donc, nous allons faire du Taguieff et décortiquer le complot anti-israélien. Donc, Talal savait à l'avance ce qu'il allait filmer. Talal Abou Rahmé, le caméraman. 2. La mort du petit Mohamed était nécessairement une mise en scène soigneusement préparée. 3. Ce que vous voyez, les images, c'est mon sujet. Ce que vous voyez là, cette image-là, elle est fausse. Et puis 4. L'intention cachée. Les Palestiniens ont réalisé cette mise en scène pour déclencher l'intifada. Et donc, si c'est moi qui diffusais le reportage, donc j'ai déclenché l'intifada. Taguieff a publié cette théorie dans ses livres et dans l'Arche. L'Arche qui se veut le mensuel du judaïsme français, aussi dans la revue du meilleur des mondes, sous le titre « Affaire Al-Doura et le renforcement des stéréotypes anti-juifs ». En novembre 2007, Akadem, le très sérieux collège des études juives de l'Alliance israélite universelle, du Front social juif et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, a consacré à l'affaire Al-Doura la plus grande partie d'un colloque sur l'antisémitisme et l'accusation de meurtre rituel contre les juifs. Taguieff ne m'a jamais contacté, je n'ai jamais été invité par Akadem, qui n'a jamais évoqué un seul de mes livres ou de mes films. Mais Taguieff n'est pas le seul. Aux États-Unis, un autre grand spécialiste du conspirationnisme arabe, l'universitaire Daniel Pipes, est l'alter ego de Taguieff. Il soutient à fond la thèse de la mise en scène de la mort d'Al-Doura. Son analyse de la logique de la théorie du complot s'applique exactement à notre histoire. Je cite « La pensée conventionnelle s'attache d'abord aux faits, puis bâtit une théorie. C'est un processus appelé induction. Les conspirationnistes inversent l'ordre des facteurs, établissent un paradigme, puis pour le prouver, organisent l'information, processus qu'ils appellent déduction. Dans le raisonnement inductif, les faits déterminent la conclusion. Dans le raisonnement déductif, les convictions l'emportent sur les faits. Un conspirationniste ignore tout ce qui n'entre pas dans sa théorie. » Fin de citation. Entre parenthèses, parmi les milliers d'articles, de livres, de postes publiés un peu partout sur l'affaire Al-Doura, les tenants du complot ignorent systématiquement le séjour de Jamal, le père à Amman, les témoignages des chirurgiens jordaniens qui l'ont opéré, la visite du roi Abdallah qui serait donc partie prenante de la mise en scène. En cette époque de fake news, une autre analyse des théories du complot peut être utile. Elle a été publiée par David Aaronovitch en 2010 dans un livre intitulé « Histoire vaudou ». Il établit 6 principes que je vais appliquer à notre histoire. 1. Il y a des précédents. Les conspirationnistes font de gros efforts pour persuader que le complot est omniprésent chez l'adversaire. 2. Sceptique et mouton. Croire en la théorie du complot vous classe parmi un groupe héroïque, une élite qui voit au-delà de la version officielle destinée à la masse inerte et paresseuse de gens qui ne réfléchissent pas. 3. Le théoricien du complot ne fait que poser des questions gênantes, car il a le désir de chercher la vérité. Le lecteur a la possibilité de se faire une idée, mais cela ne fonctionne que si on croit qu'il y a effectivement un complot. Puis les témoins experts, les conspirationnistes comptent sur l'adoption de leur théorie par des célébrités, des spécialistes, pour valider leur théorie. Crédibilité académique, là, les conspirationnistes œuvrent pour présenter les faits sous le vernis de recherche universitaire. Et effectivement, on trouve, il y a des masters, des doctorats dans des universités israéliennes. 6. Les vérités commodes ou dérangeantes, ils sont toujours vainqueurs, leurs arguments sont flexibles, ils adaptent tout nouvel élément véridique à leur théorie. Alors donc, on reprend à Aaronovitch sur l'affaire Al-Doura. 1. Les précédents. L'armée israélienne a prouvé que les Palestiniens diffusaient des mises en scène. Elle nous a montré des images de drones montrant un Palestinien sautant d'un brancard et partant. Donc, sur le brancard, il jouait à la comédie. On ne sait pas qui est le Palestinien, pourquoi il saute, pourquoi il est là et qu'est-ce qui se passe. Jamais on a eu une preuve sérieuse de mise en scène palestinienne. Deux, sceptique et mouton. En 2005, Nidra Poller, une écrivaine américaine, a dans la revue Commentary posé la question. Alors, tenez-vous bien, le gouvernement français a-t-il joué un rôle dans la propagation de cette atroce calomnie de l'affaire Al-Doura? Donc, elle a laissé entendre Chirac avait manipulé pour que Al-Doura soit filmé et que ça porte atteinte à l'image d'Israël. Sur le site américain frontpagemag.org, Philippe Carcenti, un Français, n'a pas hésité à accuser en 2006. Dans la sphère politique et intellectuelle française, les protocoles des sages de Sion sont très présents, même si presque tout le monde sait qu'il s'agit d'un faux. Tout le monde en France a ces protocoles en arrière-pensée. 3. Le conspirationniste ne fait que poser des questions, bon, cela va de soi. 4. Des experts et des médias importants soutiennent la théorie de la mise en scène de l'affaire Al-Doura. La liste est longue. Donc, accusé d'avoir fait la mise en scène, il y a eu un ancien ambassadeur d'Israël en France, un président du CRIF, le rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire, un ancien rédacteur en chef du Monde, le site et la revue Causeur, le Figaro, le Wall Street Journal et même une journaliste du Herald Tribune, New York Times. Aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds à Gaza ou assisté à un affrontement israélo-palestinien. 5. La crédibilité académique, eh bien, on a eu Academ, Taguieff, Pipes, il y en a bien d'autres. 6. Les vérités dérangeantes. Le président du CRIF refusera, lorsque France 2 a proposé d'aider Jamal, le père, à exhumer le corps de son fils pour procéder à une expertise indépendante et réaliser des tests d'ADN. La LICRA et le CRIF demandent une enquête en France, pas en Israël et à Gaza, sachant que les autorités israéliennes n'en veulent pas. En filigrane, on trouve un terme utilisé régulièrement par les communicants pro-israéliens. Tout ce qui est filmé côté palestinien est sujet à caution. C'est probablement une mise en scène. Ce n'est pas Hollywood ou le Bollywood indien, c'est Palywood, Palestine Wood. Tout récemment, des confrères qui couvraient les manifestations palestiniennes à la frontière de Gaza ont reçu des centaines de mails, souvent injurieux, les accusant de diffuser du Palywood. Michael Oren, ancien ambassadeur aux États-Unis, historien de renom, député, aujourd'hui vice-ministre d'un grand parti politique israélien, a fait faire une enquête en bonne et due forme par le Shin Bet pour savoir si Ahed Tamimi, la jeune palestinienne qui avait été filmée en train de gifler un soldat israélien il y a quelques mois, qui s'est retrouvé d'ailleurs en prison à cause de cela, si elle était une comédienne, si elle était payée par les Palestiniens pour faire la comédie. Voilà. Alors, des personnalités comme Shmuel Trigano, professeur Trigano, ont défini le principe, le concept de pogrom médiatique. Dans sa revue Controverse en février 2009, il écrit « Israël est sur la sellette, mais il est clair que le traitement disproportionné dont il est l'objet concerne le juif que l'on cible en lui de façon détournée. Quel pays au monde s'attire en effet cette furie planétaire? C'est une guerre de religion qui est ici à l'œuvre et l'Europe s'y inscrit, ouvrant la boîte de Pandore, de bouleversements qui la submergeront. La question juive est de retour de façon inédite. Les événements consécutifs à Gaza, notamment en France, rééditent les troubles qui ont accompagner la deuxième intifada. L'iconisation quasi-religieuse des enfants victimes vise la déshumanisation des juifs. Les téléspectateurs savent tout de telle ou telle famille palestinienne dont on leur raconte l'histoire humaine. Ils savent tout des blessés, des enfants, mais rien des individus israéliens, de leurs enfants, de leurs femmes et de leurs blessés. On ne voit sur les écrans que des tanks, des soldats et une armée. En fait, tous les grands médias internationaux, y compris français, diffuse également les réactions et les reportages côté israélien. Mais sur le fond, ce que dit Trigano, toute la couverture du conflit est dirigée contre le juif. L'Europe connaît une guerre de religion anti-juive. Au passage, Trigano définit l'alter juif, dont l'éthique oppose une victime absolue des Palestiniens à un bourreau, d'autant plus absolu qu'il est censé avoir été auparavant la victime absolue, la Shoah. Ce sont les mauvais juifs, en général non religieux, qu'il soumet ainsi à la victime communautaire. J'ai évoqué dans ma conférence précédente le messianisme de Shmuel Trigano. Vous allez sur les sites dirigés par Trigano, vous avez les listes d'alter-juifs condamnés. Je suis dedans, et puis il y a des personnalités très, très saintes. Je ne sais pas si tu es dedans, Michel. En tout cas, Edgar Morin y est, et bien d'autres. À ce propos, une parenthèse, on évoque le manifeste contre le nouvel antisémitisme, signé par 300 personnalités. On y apprend qu'une épuration ethnique à bas bruit a poussé 50 000 juifs à quitter certains quartiers. Bien. La définition de l'épuration ethnique, c'est une politique et une pratique consistant à faire disparaître un groupe en fonction de son appartenance ethnique, et cela par la force ou l'intimidation. Donc, selon ce manifeste, il y aurait à l'origine une politique, et cela est donc confirmé par les signataires très importants, des personnalités de premier plan, dont le président Sarkozy. Mais une politique, ça ne vient pas de la génération spontanée, elle est décidée par quelqu'un, par des personnes. Ce serait donc un complot destiné à épurer les juifs, de qui, on laisse l'imagination courir, y a-t-il un conseil des sages musulmans? Il faut le demander aux auteurs de ce texte. Mais fermons la parenthèse et revenons à mon affaire. Politiquement, l'image de la mort de Mohamed Al-Doura pour les publics imperméables au complotisme, eh bien cela démolit les clichés diffusés par la communication des autorités israéliennes, pour qui les jeunes Palestiniens lanceurs de pierres sont envoyés par des adultes et ne sont jamais innocents. Guillaume Vellrenal a analysé ce phénomène en 2009. L'affaire Al-Doura accède au rang de véritable paradigme du conflit israélo-palestinien, fournissant au tenant de la thèse de la mise en scène l'occasion de faire l'économie de toute analyse politique sérieuse. Il était fréquent d'entendre dans les années 70 l'argument selon lequel le problème palestinien, comme on disait alors, était un faux problème, qu'il n'y avait pas de peuple palestinien et que ce mensonge avait été forgé par les pays arabes pour nuire à Israël. Autre temps, autre mœurs, on est passé de la rhétorique politique au storytelling, car la fable édifiante du petit Mohamed est en fait le prolongement de la même idée. Il ne saurait y avoir par essence de victimes palestiniennes, il ne saurait y avoir qu'un peuple de comédiens, de simples figurants. Selon cette vision du conflit, il n'y a pas d'occupation. Ou plutôt une occupation douce, comme il n'en existe nulle part ailleurs. En 1975 déjà, l'hebdomadaire La Terre Retrouvée, l'organe officiel de l'organisation sioniste en France, publiait sous la plume de Paul Juniewski, Israël a réhabilité la notion et le mot d'occupation. Je cite toujours, Israël a réhabilité la notion de collaboration et lavé ce mot de sa connotation péjorative et la notion de répression. En 1979, dans son ouvrage Un peuple de trop sur Terre, Vladimir Rabi, résistant, magistrat, grand intellectuel juif et lui-même sioniste de toujours, condamnait l'amalgame établi par Arnold Mandel aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Les juifs doivent donc assumer le sionisme avec lequel on les identifie. Les antisionistes, même juifs, doivent avoir le courage de convenir de leur antisémitisme. L'équation est la suivante. Reportage ou commentaire critique de l'occupation est nécessairement anti-israélien, donc anti-sioniste et donc antisémitisme, sauf votre serviteur qui est un juif qui a la haine de soi. Voilà.